Bonjour. Bienvenue pour ce temps de culte, un temps mis à part pour louer notre Dieu, le prier, l'écouter à travers sa parole et aussi le chanter. C'est une joie pour l'église de Gobert de vous accueillir ce matin. Bienvenue pour vous qui venez de loin ou de près pour entourer Hein pour son jour de baptême. Nous allons l'écouter tout à l'heure pour son témoignage. Fabien, bienvenue. Le 4 octobre, lors du baptême de Thérèse, votre femme, nous aurions aimé que vous étiez présent. Mais pour des raisons sanitaires, vous n'avez pas pu venir. Mais aujourd'hui, vous êtes là. Et c'est une joie pour nous de vous accueillir. Merci. Nous allons chanter. Ensemble, nous pouvons chanter. Oui, Seigneur, c'est toi qui nous réunis ce matin. Merci de nous avoir dirigés dans ce temple pour te louer, pour t'écouter, pour te prier. Merci, Seigneur, de ce que tu as fait dans nos vies, de chacun. Merci de ce que tu guides nos pas, jour après jour, dans les bons moments et dans les mauvais moments. Merci Seigneur de ta présence ce matin et nous voulons vraiment ouvrir nos cœurs, notre âme Seigneur pour vraiment te célébrer, toi celui qui t'es donné, tu t'es donné sur la croix pour nous sauver. Merci pour ce temps de louange que tu nous donnes. Amen. Nous allons chanter « C'est par la grâce » que nous venons.
Nous faisons.
Louez l'Éternel, faites appel en son nom, faites connaître ses hauts faits parmi les peuples, chantez en son honneur, jouez de vos instruments en son honneur, célébrez toutes ses merveilles. Placez votre fierté dans son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à sa force, recherchez constamment sa présence. Souvenez-vous des merveilles qu'il a accomplies, de ses miracles et de ses jugements, descendant d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, qu'il a choisi. Faire connaître ses hauts faits, c'est témoigner ce qu'il a fait dans nos vies. C'est aussi témoigner ce Seigneur qui veille et prend soin de nous. Dans la Bible, connaître quelqu'un veut dire avoir une relation proche, voire intime, avec cette personne. C'est ce que Dieu veut, c'est ce que Dieu propose à chacun de nous. Cette relation est maintenant devenue possible par Jésus, qui est le lien entre Dieu et nous, par l'acte qu'il a fait sur la croix. Connaître et faire connaître Christ sont les souhaits et le moteur d'une vie chrétienne glorieuse. Nous allons chanter « Te connaître Jésus ». Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce, dont il nous a comblés dans le bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance, en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il a formé en Christ, pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant prédestiné, suivant le plan de celui qui met tout en œuvre, conformément aux décisions de sa volonté pour servir et célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui nous sauve, qui vous sauve, en lui vous avez cru et vous avez été marqués par l'empreinte du Saint-Esprit qui a été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Nous allons chanter Abba Père. Le baptême et cette proclamation publique de la communion du baptisé avec le Christ mort sur la croix. Un des textes qui nous rappelle la signification du baptême est celui du texte de Paul aux Romains, Romains 6, versets 3 à 6. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante par lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Nous allons chanter le chant, un des chants qu'Aïn a choisi, Vase d'argile.
Restaurer
J'ai mis tout mon espoir dans le Seigneur. Il s'est penché vers moi. Il a écouté mon cri. Il m'a fait remonter du puits sans fond, de la boue des profondeurs. Il a dressé mes pieds sur le rocher et il a rendu mes pas plus sûrs. Dans ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange pour lui, notre Dieu. Beaucoup verront cela, ils respecteront le Seigneur et ils auront confiance en lui. Il est heureux, l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur. Il ne se tourne pas vers les orgueilleux et les amis du mensonge. Seigneur mon Dieu, pour nous, tu as fait tant de choses étonnantes, de si beaux projets. Personne n'est égal à toi. Je voudrais l'annoncer et le redire encore. Mais il y en a trop pour te raconter. Tu ne veux ni sacrifice, ni offrande. Cela, tu me l'as fait comprendre. Tu ne demandes ni animaux complètement brûlés, ni sacrifice pour le pardon du péché. Alors j'ai dit, me voici, je viens à toi. Dans le rouleau d'un livre, je trouve écrit ce que je dois faire. Mon Dieu, je veux faire ce qui te plaît et ta loi est au fond de mon cœur. Dans la grande assemblée, j'annonce cette bonne nouvelle. Le Seigneur rend libre. Je ne peux pas me taire. Le Seigneur, tu le sais. Nous allons entendre le témoignage de Aïna, suivi de son baptême.
Bonjour, alors Aïna va effectivement donner son témoignage, qu'est-ce qui l'a amené jusqu'au baptême, et ensuite il va passer au baptistère et nous allons le baptiser, et ensuite il ira se changer, il ne va pas rester tout le culte avec les habits mouillés, et pendant ce temps, il me semble que des chants sont proposés juste après le baptême, et il y aura un temps de prière aussi pour lui par la suite.
Bonjour. Je suis né dans une famille chrétienne et depuis mon plus jeune âge, j'assistais aux écoles du dimanche à Gobert. Puis plus tard, j'avais assisté au préado qui s'appelait les CPA chers petits ados, où ma foi a commencé à grandir. Quelques années plus tard, j'ai assisté aussi au catéchisme où j'ai encore pu grandir spirituellement. Chaque année, durant le mois de juillet, pendant une semaine, avec mes parents et mon frère, on va à un camp chrétien de l'AUGBM et on parle de la Bible pendant toute cette semaine. En 2015, quand j'étais en vacances à Madagascar, j'ai décidé de donner ma vie à Jésus parce que je me suis dit que c'était le bon moment pour lui donner ma vie. J'ai aussi, pendant mes années collège, beaucoup de problèmes, car il y avait des gens qui me frappaient pour leur pur plaisir et aussi on m'insultait beaucoup. Puis pour moi, ma première année de première était catastrophique pour moi, car dans ma classe, beaucoup de gens me harcelaient pour tout et n'importe quoi, et aussi moralement, je ne tenais presque plus. Heureusement que j'avais donné ma vie à Jésus pour me relever de cette situation qui était très compliquée pour moi. Pour moi, l'endroit où j'ai pu grandir spirituellement, ce sont toutes les années que j'ai effectuées à Union Jeune. C'est un rassemblement de jeunes où on a l'occasion de parler de la foi pendant 4 jours complets. Ce rassemblement de jeunes, j'y suis allé pendant 4 années de suite et à chaque fois, je m'y plais beaucoup et je reçois beaucoup de conseils pour alimenter ma foi. Par ailleurs, pendant un voyage scolaire en Écosse, J'avais pu dire à un de mes meilleurs amis que je suis chrétien. Cet ami l'a tellement bien pris que j'ai remercié le Seigneur grandement d'avoir eu le courage de dire à mon meilleur ami que j'étais chrétien. Quand il y avait encore le pasteur Jean-Loup Peter Schmidt à Gobert, je lui ai dit que je voulais me faire baptiser. Et il m'a dit, tu te feras baptiser quand Christian Huy, qui est notre pasteur actuel, sera là pour te baptiser. J'ai confiance en Seigneur dans tout ce qu'il fera pour moi dans le futur. Et ce baptême est pour moi l'occasion de montrer ma foi en Jésus. J'espère que ce sera un beau témoignage pour ceux qui voudront se faire baptiser à l'avenir.
Aïna, nous avons entendu ton témoignage. Confesses-tu le Seigneur Jésus comme ton sauveur et désires-tu le suivre par sa parole?
Oui, je le veux.
Nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
En attendant le retour de Haine, nous allons chanter deux chants. Je loutons l'Éternel et merci pour la croix. Quand il sera là, on va prier pour lui, pour son cheminement, pour sa marche avec le Seigneur. Il y a aussi peut-être des réunions, des sujets de prière que nous avons à cœur, que nous pouvons prier à haute voix. Donc, sentez-vous libre de prier. Pour ce témoignage qu'Aïn a fait. Nous savons, Seigneur, que tu es celui qui garde, qui veille à chaque instant. Oui, Seigneur, tu es celui aussi qui guérit nos blessures. Nous te louons de ce que tu fais dans nos vies de tous les jours. Merci Seigneur de nous apprendre à nous confier en toi, à remettre notre vie, les détails de nos vies entre tes mains. Toi Seigneur, tu connais tout et tu connais le meilleur pour nous. Apprends-nous Seigneur à entrer dans le chemin que tu as déjà tracé pour nous, même si nous ne le savons pas encore. Le Seigneur, ouvre nos esprits par ton esprit pour que nous sachions vraiment que tu es un Dieu qui prend soin de nous. Sois loué, sois béni. Amen. Nous allons chanter ce chant « Que la grâce de Dieu soit sur toi ». Et après, on va entendre la prédication.
Que la grâce de Dieu soit sur toi.
Merci beaucoup, Eri, de nous avoir rappelé cette relation avec Dieu, offerte grâce à Jésus. Et merci beaucoup, Aïna, pour ton témoignage qui nous encourage et qui nous rappelle que Dieu nous relève et nous guide, il nous porte. Juste qu'elle cela, lorsque ne que moitié mot une, en juste mot deux, avait beaucoup mal me. Ce jeu illustré que nous, les A, là, du c'est si n'avons fait, en cas résultat quasiment même. Avez-vous bien compris ce que je viens de dire? Il n'y a pas eu de bug, hein, c'était fait exprès. Alors rassurez-vous, je ne vais pas parler ainsi pendant toute la prédication. Voici ce que je voulais dire. Voilà, je décode ce que je viens de dire de manière incompréhensible. Je voulais juste montrer quel effet cela fait lorsqu'on ne dit que la moitié des mots dans une phrase. En prononçant juste un mot sur deux, vous avez eu beaucoup de mal à me comprendre. Et ce que je souhaite illustrer, c'est que lorsque nous faisons les choses à moitié, la plupart du temps, c'est comme si nous n'avons rien fait. En tout cas, le résultat est quasiment le même. À la maison, nous avons pas mal de livres pour enfants, et l'un des livres s'intitule « Matthieu moitié ». C'est un livre que nous aimons beaucoup lire avec les enfants, il nous fait pas mal rire. Il raconte l'histoire d'un petit garçon qui ne fait que les choses à moitié. Par exemple, il ne mange que la moitié de son plat. Il ne brosse que la moitié de ses dents. Il ne dort que la moitié de la nuit. Il ne dit que la moitié de la vérité. Autant vous dire que faire les choses à moitié nuit beaucoup à sa santé, à ses relations et notamment sa relation avec Dieu. Vous l'aurez compris, ce livre pour enfants est un livre qui nous invite à faire les choses jusqu'au bout et à laisser Dieu agir entièrement en nous. Pour la prédication, je vous propose de lire un texte de la Bible à ce sujet, sur le fait que Dieu nous invite à nous abandonner entièrement à lui, et pas seulement à moitié ou en partie. Le baptême, dont nous venons d'être témoins, est une démarche riche en signification. Ce que Aïna a fait en témoignant et en se faisant baptiser est un geste très fort. Il a exprimé par ses paroles, par sa démarche, sa foi en Jésus, et non pas une moitié de foi, mais une confiance totale. Alors rien ne nous permet de dire que nous sommes à l'abri des doutes, des moments de doute et de défaillance, mais aujourd'hui, Aïna a manifesté sa confiance en Jésus, une confiance qui l'amène à s'appuyer sur Dieu pour l'avenir, avec toutes les incertitudes que l'avenir comporte. Notre texte se trouve dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 19, verset 13 à 30. Donc dans le contexte, Jésus est en train d'enseigner, et voici ce qui arrive. Alors, donc Matthieu 19, 13 à 30. Alors des gens lui amenèrent des petits enfants. Ah, le texte. Voilà. Alors des gens lui amenèrent des petits-enfants afin qu'il pose les mains sur eux et prie pour eux. Mais les disciples leur firent des reproches. Jésus dit, « Laissez les petits-enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Il posa les mains sur eux et partit de là. Un homme s'approcha et dit à Jésus, « Bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon, si ce n'est Dieu seul. Si tu veux entrer dans la vie, respecte les commandements. Lesquels? Lui dit-il. Et Jésus répondit, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignage, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. Que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit cette parole, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Quand les disciples entendirent cela, ils furent très étonnés et dirent, « Qui peut donc être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Pierre prit alors la parole et dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Que se passera-t-il pour nous ?» Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et toute personne qui aura quitté à cause de moi sa maison ou ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants ou ses terres, recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. Bien des premiers seront les derniers, et bien des derniers seront les premiers. » Ce texte commence par mentionner des éléments perturbateurs, autrement dit, des enfants. Alors, je ne considère pas les enfants comme des éléments perturbateurs, mais c'est ainsi que les disciples de Jésus les considéraient à ce moment-là, parce qu'ils étaient gênants. Et Jésus les reprend et prononce cette parole au verset 14. « Laissez les petits-enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Le royaume des cieux est pour ceux qui ressemblent aux enfants. Que signifie ressembler à un enfant? À quoi Jésus pense-t-il lorsqu'il nous invite à ressembler aux enfants pour entrer dans le royaume des cieux? Parle-t-il de l'innocence des enfants? Je ne pense pas. D'ailleurs, une question intéressante, les enfants sont-ils innocents? En tant que parent, je constate que dès les premières années, et pour moi en fait, c'est même dès les premiers mois, mais bon, dès les premières années, les enfants sont capables de comprendre une consigne et de la transgresser de manière délibérée. Alors si ce n'est pas de l'innocence dont Jésus parle, à quoi Jésus pense lorsqu'il affirme que le royaume des cieux est pour ceux qui ressemblent aux enfants? Alors, il y a pas mal de caractéristiques des enfants, mais il me semble que Jésus parle notamment de leurs besoins. Un enfant sait qu'il a besoin de ses parents et il ne remet pas cela en cause. Et même si très tôt, l'enfant manifeste son désir d'être autonome, il sait qu'il ne peut pas encore se passer de ses parents. L'enfant s'appuie sur ses parents pour ses besoins quotidiens. De même, Dieu nous demande de nous appuyer sur lui, de compter sur lui au quotidien. Il nous demande de reconnaître notre besoin de Jésus. Dans notre récit, Jésus bénit les enfants. Alors c'était mon premier point. Jésus bénit les enfants, qui sont un exemple, en quelque sorte. Et voilà qu'un homme riche s'approche avec une question au verset 16. Alors, l'homme riche, lui, c'est pas un exemple. « Bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui fait remarquer que personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. C'est une remarque intéressante. De nos jours, beaucoup de personnes se croient assez bons pour entrer dans le royaume des cieux. Mais Jésus dit clairement que seul Dieu est bon. En même temps, Jésus ne nie pas être bon. Il nous laisse comprendre, dans une certaine mesure, qu'il est Dieu. Un Dieu bon comme aucun être humain. Puis il rappelle à l'homme riche les commandements de Dieu. Au verset 20, notre homme déclare avoir respecté tous ses commandements depuis sa jeunesse. Il demande à Jésus « Que me manque-t-il encore pour entrer dans le royaume des cieux ?» Et Jésus répond « Si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais l'homme riche devient triste et se sent incapable de faire cela. En tout cas, à ce moment-là de son histoire, peut-être par la suite, on ne connaît pas la suite, mais à ce moment-là, l'homme riche devient triste et se sent incapable de faire ce que Jésus demande. Pourquoi ? Le texte nous dit « car il avait beaucoup de biens ». Si cet homme ne possédait pas grand-chose, cela aurait été peut-être certainement plus facile de tout vendre. Il n'aurait pas perdu grand-chose. Mais il possédait beaucoup. Il devait se séparer de trop de choses auxquelles il tenait. Dans ce récit, Jésus ne demande pas à tout le monde de tout vendre. Il demande précisément à cet homme-là de tout vendre. L'argent n'est pas mauvais en soi, mais Jésus voulait que l'homme riche, cet homme, puisse suivre Jésus en étant libéré de son attachement à ses richesses, afin d'avoir un seul guide, c'est-à-dire Dieu. Il arrive souvent que ma femme me pose une question à table, enfin me pose pas une seule question, mais plusieurs questions à table, et il arrive que je mette bien 10 secondes, au moins, avant de répondre à ces questions. Cela arrive surtout au repas de midi, lorsque j'ai la tête encore dans mon travail, par exemple. Donc même si je suis physiquement à table, mon esprit est encore au bureau. On peut dire que dans ce cas-là, je suis à moitié présent avec ma femme et à moitié encore au travail. C'est une situation assez inconfortable, car étant partagé entre ma femme et mon travail, finalement, je ne suis nulle part. En général, il faut attendre un certain temps afin que mon esprit rejoigne mon corps. Alors je parle bien sûr de façon imagée. Je prends cet exemple pour illustrer ce que Jésus souhaite nous éviter. Jésus voulait que l'homme riche fasse totalement confiance en lui et non pas seulement à moitié. Il ne voulait pas d'un homme attaché, donc à la fois présent avec ses richesses et à la fois présent avec Dieu. Il ne voulait pas d'un homme attaché à la fois aux deux. Jésus savait que pour cet homme, l'attachement à ses richesses l'empêcherait d'être entièrement attaché à Dieu. Il était en quelque sorte dans une situation de dépendance. Il était sous l'emprise de ses biens matériels. Pour libérer l'homme riche, Jésus lui a demandé de quitter tous ses biens. Et nous ? On a vu les enfants, l'homme riche, et nous. Quel exemple suivre ou ne pas suivre ? Pour nous libérer, qu'est-ce que Jésus nous demande de quitter ? Pour cet homme-là, l'homme riche, Jésus lui a demandé de quitter ses richesses parce que c'était ça qui l'empêchait d'être entièrement disponible pour Dieu. Et nous ? Qu'est-ce que Jésus nous demande de quitter pour être entièrement disponible pour Dieu ? Qu'est-ce qui prend trop de place dans notre vie ? Qu'est-ce qui nous empêche de faire confiance entièrement en Dieu ? Dans la Bible, Jésus mentionne en particulier deux choses qui ont tendance à prendre trop de place dans notre vie et qui nous empêchent de mettre entièrement notre confiance en lui. Il s'agit des plaisirs de la vie et des épreuves de la vie. Les plaisirs de la vie peuvent tellement prendre de place que nous pouvons mettre Dieu au second plan. De même, les épreuves de la vie peuvent prendre tellement de place que nous pouvons mettre Dieu au second plan. Quand je parle des plaisirs de la vie, ce n'est pas forcément les choses que l'on possède, mais aussi peut-être des choses que l'on veut posséder. Et cela peut occuper notre esprit au point que cela dirige notre vie. Et c'est pareil pour les épreuves.
elles peuvent tellement occuper notre esprit que notre relation avec Dieu se limite, que notre seule relation avec Dieu se limite aux prières pour sortir de l'épreuve. Et c'est ainsi que les épreuves dirigent notre vie au lieu que ce soit Dieu. J'ai récemment eu une discussion avec une connaissance qui a été interpellée en assistant à un culte dans une église. Lors de ce culte, les intervenants du culte avaient passé plus de temps à parler du Covid que de Jésus. Le Covid a-t-il pris la place de Dieu dans nos cultes et dans nos églises? C'est un exemple parmi d'autres. Personnellement, il arrive souvent que ma vie soit dirigée par mes désirs ou mes préoccupations. Je ne me fais pas d'illusions, je sais que mon attachement à Dieu n'est pas toujours entier. En voyant l'homme riche partir, Jésus fait ce commentaire. Je vous le dis en vérité, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples se demandent alors, qui peut être sauvé? À cette question, Jésus marque un temps d'arrêt pour regarder ses disciples. Avant de répondre, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Cette parole de Jésus me rassure. C'est une parole libératrice. Ce que moi, je me sens incapable de faire, Dieu peut le faire pour moi, à ma place. Jésus nous demande de nous abandonner entièrement à lui, mais nous en sommes incapables. Et justement, lorsque nous avons notre incapacité, c'est lorsque nous avons cette incapacité que Jésus intervient en disant « Ce que tu es incapable de faire, Dieu peut le faire à ta place. » C'est le résumé de l'Évangile. Nous sommes incapables d'honorer Dieu entièrement. Jésus l'a fait pour nous. Nous sommes incapables de vaincre la mort. Jésus l'a fait pour nous. Nous sommes incapables de nous libérer de certaines emprises. Jésus le fait pour nous. Qu'avons-nous à faire? Être comme des enfants, reconnaître que nous avons des limites et donc reconnaître que nous avons besoin de Jésus, lui qui a tout accompli à notre place. Je termine cet enseignement de Jésus avec cette parole du verset 30. Bien des premiers seront les derniers et bien des derniers seront les premiers. Les derniers, en quelque sorte, sont ceux qui ressemblent aux enfants et aux pauvres. Les enfants savent qu'ils ont besoin des parents pour prendre soin d'eux. Les pauvres savent qu'ils sont en situation de besoin. Ils ont besoin d'aide. Et les premiers sont en quelque sorte les riches de ce monde, mais pas seulement. Ce sont aussi ceux qui pensent n'avoir besoin de rien ni de personne. Ceux-là auront du mal à accepter ce que Dieu leur offre. Bien des premiers seront les derniers, et bien des derniers seront les premiers. Que Dieu nous aide à reconnaître notre besoin d'être sauvés. Qu'il nous aide à nous attacher, non pas à moitié, mais entièrement à Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à la prière. Notre Père, merci. Nous qui faisons souvent les choses à moitié, en tout cas pas entièrement, vis-à-vis de toi. Toi, tu t'es entièrement donné pour nous, sur la croix. Tu as vaincu la mort pour nous. Merci parce que si nous nous sentons incapables de faire les choses à 100%, toi, tu viens combler notre incapacité, nos manquements. Et comme Aïna nous l'a rappelé, tu es là pour nous relever, pour nous guérir, pour nous faire avancer, pour nous attirer à toi, pour nous mettre dans notre cœur ta parole, ton esprit, ta révélation. Merci parce que ce que nous sommes incapables de faire, ce qui est impossible aux hommes, est possible à Dieu. Aide-nous à nous abandonner entièrement à toi. Et nous savons aussi que c'est aussi le travail de ton esprit en nous qui nous permet d'être entièrement disponibles pour toi. Que ton esprit travaille dans notre cœur, dans notre église, dans les églises, et que nous puissions être dans la joie de t'appartenir. Merci parce que nous sommes tes enfants et tu es notre Père qui prend soin de nous. Amen. Et nous pouvons chanter en nous levant en Jésus seul. Nous allons prendre maintenant un temps pour partager la Sainte Cène, qu'on appelle le repas du Seigneur, le repas que le Christ a institué. Ce repas, nous pouvons le considérer comme une réponse à sa parole. Il nous rappelle que ce sont ceux qui ressemblent aux enfants qui peuvent entrer dans le royaume des cieux, ceux qui sont prêts à abandonnés, tout ce qui les empêche d'être entièrement disponibles pour lui. Il nous appelle à, en quelque sorte, être des derniers, parce que c'est lui qui nous fait devenir les premiers. Ce repas, tout comme le baptême, fait référence à l'œuvre du Christ pour nous, pour chacun de nous, pour notre vie. Christ qui a donné son corps, il est mort sur la croix, et qui a versé son sang. J'aimerais vous lire la manière dont ce repas a été institué dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, à partir du verset 23. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Tout comme pour le baptême, la Sainte-Cène est un geste symbolique où nous symbolisons, nous annonçons la mort du Christ et sa résurrection. Il est mort à notre place et il est ressuscité pour nous offrir la vie. Le repas du Seigneur est pour tous ceux qui souhaitent répondre à son appel, ceux qui souhaitent confirmer leur réponse suite à l'écoute de sa parole, ceux qui reconnaissent Jésus comme leur Seigneur, leur Sauveur. Je vous invite à vous lever pour ce temps de Sainte-Cène. Nous allons passer dans les rangs avec le pain et le vin. Lorsque vous aurez les éléments, vous pourrez enlever votre masque le temps de prendre le pain et le vin et ensuite vous rasseoir avec votre masque. Comme ça nous permet aussi de savoir où est-ce que nous en sommes. C'est Eri et Aïna qui vont passer dans les rangs. J'aime bien demander aux baptisés de participer à la distribution de la Sainte-Cène. Nous avons aujourd'hui le Père et le Fils. Et nous savons que l'Esprit est avec eux. Voilà donc pour les aspects pratiques. Nous allons commencer par le pain, qui est dans des petites coupelles, et ensuite le vin, et donc le jus de raisin, pour ceux qui souhaitent jus de raisin, se trouve dans les petites coupelles qui se trouvent sur le cercle extérieur. Et donc, comme nous sommes assez nombreux, nous avons espacé les petits gobelets pour que chacun puisse le prendre sans toucher les autres. Nous allons, au fur et à mesure, remplir les plateaux. Je vous invite de nouveau à la prière. Notre Père, merci parce que ce repas nous rappelle tout ce que tu as déjà fait pour nous, mais aussi tout ce que tu fais pour nous aujourd'hui. Ton œuvre ne s'est pas arrêtée à la croix, mais ton esprit continue d'œuvrer dans notre vie. Merci parce que ce repas nous rappelle aussi le repas que nous prendrons avec toi au ciel. Merci parce que tu nous offres une espérance certaine. C'est une promesse. Que nous puissions nous appuyer sur cette promesse par la foi, jour après jour. Amen. Et nous pouvons nous lever pour chanter « Tu es venu jusqu'à nous ».
Jusqu'à nous.
Notre culte touche à sa fin. Avant de laisser la parole à Eri pour une parole de bénédiction, j'aimerais faire quelques annonces. Donc, à la sortie du culte, vous aurez à la fois des corbeilles pour récupérer les petits gobelets de la Sainte-Seine et aussi des boîtes pour l'offrande. Donc, c'est totalement libre. Donc, nous ne faisons plus passer les paniers pour éviter les manipulations et la circulation, mais les boîtes sont aux deux sorties. Il y a aussi les plannings du mois qui reste, et c'est vrai que le planning du mois de novembre est un peu chamboulé, donc vous l'aurez la semaine prochaine, parce que suite aux annonces du gouvernement, nous devons revoir quelques horaires d'études bibliques pour ceux qui habitent notamment dans le Loiret. Voilà, donc sinon cette semaine, il y a simplement l'étude biblique à la loupe, à Vaupillon plus précisément, avec Laetitia, le jeudi 27 octobre à 15h. Et la semaine prochaine, donc le culte, 1er novembre. Est-ce qu'il y aurait d'autres annonces pratiques ou d'activités que j'aurais oubliées, peut-être les membres du conseil ? Voilà, alors je donne la parole à Eri. À la sortie, vous verrez, le premier jour, on utilise le barnum. Donc voilà, s'il y a l'appli, on peut s'abriter pour discuter encore un peu ensemble, donc à ma gauche. Donc voilà, ça sera à cette sortie-là. En tout cas, voilà, merci beaucoup pour tous ceux qui ont contribué. Je le dis pas à chaque culte, mais j'aime bien rappeler et remercier tous ceux qui contribuent à l'organisation du culte. Il y en a beaucoup pour les aspects techniques, pratiques. Un grand merci. Et merci pour la présence de chacun. Nous pouvons nous réunir librement et dans la joie pour honorer Dieu et être à son écoute. Donc nous sommes reconnaissants à chaque culte de pouvoir avoir ce rassemblement, cette communion. Voilà, je laisse la parole à Eri.
Nous pouvons nous lever pour entendre la bénédiction. Je pose à Sion une pierre de fondation très dure, une pierre principale solidement fixée. Celui qui s'appuie sur elle ne tombera pas. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Nous allons terminer par ce chant. Il m'aime. La sortie se fait par devant, des deux côtés. Merci.